Gaby Roche est un marcheur, un grand marcheur, qui n'a pas craint de faire plus de 1000 km à pied le long du plus grand fleuve de France, la Loire, et qui en a rapporté un récit riche d'enseignements. Il nous a livré ses impressions dans nos studios de Roanne.
J'ai toujours aimé marcher et arrivé au moment de la retraite, j'ai senti le besoin d'accomplir quelque chose qui me permette de passer le cap sans problème. Bien sûr, j'ai pensé tout de suite à la randonnée pédestre. Il faut dire que j'habite au bord de l'Aix qui se jette dans la Loire à quelques kilomètres à Nervieux. Et bon, c'est tout naturellement que j'ai commencé à préparer mon voyage pour la Loire, mon voyage à pied. Ça m'a demandé des longues semaines de préparation l'hiver.
Comment vous définiriez la marche, cet attrait pour la marche? Qu'est-ce que c'est d'abord pour vous d'aller marcher? Ça représente quoi?
Alors la marche, c'est, j'allais dire, au vu de l'expérience que j'ai, je dirais que paradoxalement, c'est le meilleur moyen de se connaître et c'est un pont qui est jeté vers les autres. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour connaître un pays, pour connaître ces gens, les façons de vivre, que par la randonnée pédestre. J'ai fait des camps vélo, j'ai voyagé un peu en camping-car, en voiture, en prenant le temps, mais rien n'égale la marche.
Rien n'égale la marche, donc pour faire des rencontres. Et c'est ça qui vous attire le plus.
Voilà, c'est ça. Bien sûr, la Loire, c'est un fil conducteur, j'allais dire que c'est le prétexte. Un prétexte qui a du sens pour moi, puisque j'ai vécu à Roanne durant une vingtaine d'années et j'habitais dans le quartier de Matel, donc la Loire était à une portée de vélo et je manquais pas d'y aller sur ses berges aussi bien que sur le canal. Je pense que ça m'a motivé certainement.
Et puis la Loire, c'est un fleuve qui n'est pas comme les autres aussi.
Qui n'est pas comme les autres, oui. Déjà, c'est le plus grand de France et le plus important de par toute l'activité qu'il a drainée autour de lui. Déjà, quand on regarde la carte de France, on se rend bien compte qu'il nous mène de la Méditerranée quasiment à l'océan Atlantique, avec le Rhône, son cousin proche. Il n'y a qu'une petite centaine de kilomètres entre les deux fleuves. Et donc, tout ce qu'on ne pouvait pas faire par bateau, on le faisait par chariot, entre Villefranche et Roanne, par exemple, ou Givors et Roanne. Et Roanne se trouve effectivement être le premier port fluvial sur la Loire. Premier port fluvial d'importance, bien sûr.
Alors, cette activité, vous l'avez encore constatée aujourd'hui?
Alors, l'activité fluviale par elle-même est réduite à une activité de loisir. On y trouve diverses activités qui vont du canoë-kayak. La pêche, il y a beaucoup de pêcheurs. Autant la pêche en bord de Loire que sur canoë, que à l'épervier. Des pêcheurs professionnels encore pêchent à la nasse, un peu plus loin sur la Loire. Il y a toute la batellerie de Loire, la batellerie ancienne qui est remise à l'honneur. Et dans tous les villages, à partir de Nevers, on trouve, même avant un petit peu, on trouve des bateaux qui ont été reconstruits d'après des plans d'époque, s'ils existent, c'est pas toujours le cas, d'après des travaux de recherche et en compagnie de charpentiers. Et donc, cette batellerie de Loire, maintenant, a bien trouvé sa place parce qu'elle participe à de nombreuses actions. Alors déjà, des balades pour le loisir, des chantiers d'insertion pour les personnes qui fabriquent, la découverte de la nature, l'apprentissage de la collectivité, et l'hébergement qui est important, puisque à partir de Nevers, on a l'Eurovélo 6 qui rejoint Nantes à la mer Noire en passant par la Loire, puis le Rhin, puis le Danube. Ça fait un itinéraire de près de 5000 km. Et il faut savoir qu'il est très pratiqué chez nous en France, si bien que se développent encore actuellement les commerces autour, dans les petits villages. Le passage des touristes permet de vivre, permet aux gens de rester sur place. Il faut aussi entretenir les vélos, donc il y a des petits ateliers, les offices de tourisme en profitent. Autour de ça aussi, se grèvent des fêtes de Loire très nombreuses, où sont mis à l'honneur tous les produits du terroir. Le meilleur exemple que j'en ai, moi, c'est celle à laquelle j'ai participé à la Poissonnière, la fête des Coteaux du Layon, qui réunit à la fois les vignerons et les bateliers, et qui permet de regrouper quelques centaines de personnes qui viennent d'un peu partout autour, aussi bien des randonneurs à pied, à vélo, à cheval, en bateau. Tout ce petit monde fait la fête en profitant des produits du terroir.
Alors donc, vous avez remonté la Loire de la source jusqu'à l'embouchure?
Descendu la Loire.
J'ai
descendu. Quand on regarde la carte de France, vue de chez nous, vue de Roanne, effectivement, on a l'impression de remonter la Loire. Mais on la descend bien. On démarre à 1400 mètres, à Roanne on est à 250, donc il reste en gros 700 km pour faire les 250 derniers mètres de dénivelé. Mais on descend lentement, mais sûrement à partir de Roanne. Avant on descend beaucoup. Voilà.
Donc une grande diversité de paysages aussi, donc des gorges de la Loire vers chez nous jusqu'à Saint-Nazaire.
Oui. Alors effectivement, on dit la Loire, on devrait plutôt dire les Loires. puisqu'il y a beaucoup de différences entre la Loire des origines et celle qui se jette dans la mer. Alors, jusque chez nous, on peut encore dire que c'est la Loire sauvage, malgré les deux gros barrages qui sont Grandjean et Villeray chez nous. Elle a gardé son aspect sauvage du départ jusque chez nous, puisqu'elle traverse très souvent des gorges et se trouve toute seule au fond, avec souvent un accès impossible, même pour le piéton. Ce qui m'a obligé à marcher souvent sur le plateau, par exemple. Ou quand elle peut passer un peu plus loin vers le puits, il n'y a place que pour la voie ferrée, la nationale et la Loire. Donc l'amoureux de la nature va voir plus haut aussi. La faune autour, les poissons, les oiseaux, la nature sont beaucoup plus sauvages qu'effectivement ce qu'on va rencontrer plus loin. À partir de Roanne, c'est une Loire tranquille, pépère, mémère, je ne sais pas comment il faut le dire, mais qui sinue un petit peu, allez, jusqu'à Nevers, voire un peu plus loin, et qui prend son temps. Et là, c'était la Loire qui était un petit peu plus industrieuse. Avec la batellerie qui existait sur la Loire, les gens étaient à l'œuvre, mais dans des conditions assez difficiles ici, puisqu'on avait que le courant pour nous porter dans un sens. Ce qui est le cas partout sur la Loire, bien sûr, mais contrairement à la zone entre Nantes et Orléans, qui avait le vent d'ouest, le vent de Galerne, qui poussait jusqu'à les bateaux à leur montée jusqu'à Orléans. Après, on arrive du côté d'Orléans, alors là, c'est la Loire royale que tout le monde connaît, la Loire des châteaux de la vallée de la Loire, mais il y a bien d'autres châteaux en amont de ces châteaux de la Loire. Et puis, on termine par la Loire océanique, très puissante, très large, où on sent déjà l'influence de la marée qui remonte jusqu'à Ancenis. C'est impressionnant pour le voir de ses yeux, surtout lors des grandes marées. Moi, quand je l'ai su, la Loire, j'ai eu la chance, c'était pas tout à fait une grande, grande marée, mais quand même, c'était une marée d'importance. Et on voit très bien la lutte qui se passe entre le flot de la Loire qui descend et celui de la mer qui veut remonter. La Loire rêve toujours à se jeter dans la mer.
Quelle est votre Loire préférée ?
Ma Loire préférée, c'est paradoxal. C'est à la fois la plus sauvage pour venir jusque chez nous, et puis un peu plus loin, avant d'arriver à la Vallée des Rois, effectivement, les sentiers qui existent sont vraiment en bord d'eau. Bien souvent, on peut marcher en dessous des levées qui protègent le pays des inondations, et on est vraiment les pieds dans la nature, les pieds dans les orties, les pieds dans les ronces, les pieds dans les pas des chevreuils, accompagnés d'oiseaux. Pour ma part, j'ai marché même souvent dans l'eau puisque la Loire était en crue. Et bizarrement, cet aspect très sauvage existe encore, alors que quelques dizaines de mètres plus loin, on a la nationale d'un côté et une autre de l'autre côté. Voilà. La seule pollution qu'on a à cet endroit, c'est le rendement des voitures un peu plus haut.
Gaby Roche au micro de RVR. Il a marché le long de la Loire, de la source jusqu'à l'embouchure. Il nous en propose le récit dans un livre qui vient de sortir, Courant de Loire. Vous avez rapporté de ce voyage un récit, Courant de Loire, qui retrace votre parcours étape par étape. Comment se prépare-t-on d'abord pour une marche comme la vôtre, Gaby Roche, hein, je le rappelle. Donc le long de la Loire, vous êtes parti à pied de la source jusqu'à l'embouchure.
La préparation est à plusieurs niveaux. La première, c'est préparation, j'allais dire, dans la tête. Une fois que la décision est prise, eh bien, il faut organiser matériellement et techniquement. Tous les longues soirées d'hiver sur Internet pour préparer. Mon but, c'était de m'imprégner le plus possible de tout ce qu'il y avait autour de la Loire. C'est prétentieux. Mais pour que je puisse sentir, lorsque je passe, bien saisir la vie du pays. Et le fait de l'avoir préparé, effectivement, m'a beaucoup aidé. Des événements résonnaient en moi, des monuments, parce que j'avais préparé en avant. Donc ça, c'est la préparation technique. Après, il y a la préparation physique. Alors, effectivement, à cette époque, je courais encore régulièrement. Je marchais encore beaucoup. Donc, j'ai accentué un petit peu tout ça un petit peu avant de partir. Et puis, vraiment, la préparation mentale, pour moi, c'était très important. À force d'avoir travaillé sur ce projet, il s'imposait tellement à moi que j'étais quasiment certain d'aller au bout.
Alors le côté pratique, c'est que vous saviez où vous alliez coucher ?
Pour être hébergé, j'ai demandé à tout mon entourage, donc aussi bien les amis, la famille, les collègues de travail, de me trouver des hébergements en bord de Loire. Mais on se rend compte qu'avec la Loire comme fil conducteur, c'est assez facile. En 2 mois, j'avais trouvé la plupart de mes hébergements. Sur 34 nuits que j'ai passées à l'extérieur, j'en ai passé 25 chez des gens que je ne connaissais pas. 7-8 en gîte et puis 2 en hôtel. Une sur un bateau. Donc on se rend compte quand même que la solidarité, ça existe.
Alors donc vous êtes parti du Mont Gerbier des Joncs. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus ?
Au Gerbier. Alors d'abord, j'avais les souvenirs d'école avec des phrases qui trottent dans la tête. La Loire reprend sa source au Mont Gerbier des Joncs. C'est un alexandrin, hein. C'est pour ça qu'on le retient si bien. Le plateau de Millevaches, le Cré de la Neige, des noms comme ça un petit peu mystérieux. Et en fait, le Gerbier des Joncs, c'est une motte de basalte posée sur un plateau, assez abrupt. Pour monter, on est parfois obligé de céder de cordes. Et cette motte est un petit château d'eau, duquel sortent plusieurs sources. La source de la Loire, non, les sources de la Loire. L'officiel, la géographique, la véritable, chacun a la sienne, puisque effectivement, c'est un. Sur le plateau, il y a beaucoup de mousse, de tourbe, et c'est un vrai réservoir d'eau. Alors, on peut quand même se poser la question. Quand il reçoit son premier affluent, l'Aigle Nègre, à quelques kilomètres du Gerbier, quand on regarde la carte, l'Aigle Nègre fait 4 kilomètres, la Loire n'en fait que 2,5. L'Aigle Nègre a plus de débit que la Loire, et l'Aigle Nègre prend sa source à une altitude plus élevée que celle de la Loire. Alors, est-ce que la Loire ne devrait pas s'appeler l'Aigle Nègre ? Ça, c'est un débat de spécialistes, mais...
Mais alors, elle est comment ? Décrivez-la nous à cet endroit-là.
Alors, pour ma part, je suis parti de la source IGN. Elle est sous une plaque de lave, de basalte. Et ici commence ma course vers l'océan. Et donc, c'est un ruisselet qui court à travers pré au début, puis après à travers bois. Et bon, j'ai tenu absolument à la suivre au plus près, mais c'était une marche à travers les rochers, les ronces et les broussailles. Pendant quelques kilomètres. Elle s'élargit assez vite puisque de nombreux petits ruisseaux du plateau viennent se joindre à elle, à tel point qu'à une vingtaine de kilomètres plus bas, on a déjà un premier barrage, le barrage de la Palisse. Alors je parlais de la Loire sauvage des débuts, on doit bien concéder qu'avec un barrage comme ça, la Loire n'est plus sauvage ici. Il faut quand même savoir que c'est un des rares barrages au monde où l'eau d'un versant, en l'occurrence celui qui va vers l'océan, est détournée au profit d'un autre versant, celui qui va vers la Méditerranée. Tout ça pour produire de l'électricité à Montpezat. Et donc, ici, est prise la moitié de l'eau de la Loire. Hein. Ce qu'on ne sait pas toujours.
Et alors après ?
Après des gorges.
Tout de suite des gorges.
Parfois, il est possible de marcher en bord de Loire. D'autres fois, il faut s'écarter. Monter, descendre sur le plateau. J'avais compté traverser à Gué. J'avais repéré un Gué sur la carte près d'un ancien moulin. Et je ne m'y suis pas hasardé du tout, puisque la Loire était déjà en crue, il avait plu depuis 2 jours, et elle avait eu une brusque montée des eaux. En arrivant vers le puits, elle est déjà large, Brive-Charensac, elle est déjà très large. On trouve déjà de nombreux ponts. On saisit toute l'importance que même ici, elle avait déjà, puisqu'on parle de château de la Loire, mais il ne faudrait pas oublier tous ceux qu'il y a déjà en Haute-Loire, dont le premier est Goudet. Contrairement au château du Val-de-Loire, ce sont des châteaux plus... qui ont gardé un aspect plus défensif, même si certains ont été aménagés un petit peu pour l'agrément. Et des châteaux et des maisons fortes aussi. J'ai eu la chance de dormir dans une maison forte, parce que j'avais choisi. Il m'arrivait de coucher très, très simplement dans une cabane, entre autres, mais là, c'était une chambre d'hôte. J'avais tenu à dormir ici, puisque cette maison forte était à la sortie d'un ancien pont sur la Loire. Les maisons fortes, c'était les maisons qui étaient dédiées aux cadets des familles, aux branches cadettes des familles, qui ne trouvaient pas de place dans le château, puisque l'aîné y était. Et donc, c'était en limite de territoire, souvent, ou au passage, et on contrôlait ainsi le territoire familial de cette façon.
On poursuit sur RVR avec le marcheur Gaby Roche le long de la Loire dans le département de la Haute-Loire.
La Haute-Loire, donc toujours un terrain très accidenté avec quelques vallées qui s'ouvrent quand même. On trouve des cultures, mais à gauche, en haut, à droite, en haut, encore des châteaux. Il faut dire que la Loire était un réservoir d'argent, entre autres, pour les seigneurs, pour les petits féodaux qui étaient sur les côtés, puisqu'il y avait à la fois des droits de passage, des droits de pêche aussi. Et tout ça, c'était bon à prendre.
Et oui, ça générait beaucoup de... Voilà. Une économie importante.
Aussi bien qu'on arrive à Grandjean, et Salois, Grandjean, Chambles, et 3 châteaux se défilent en quelques kilomètres. On arrive dans la plaine du Forêt, Saint-Just-Saint-Renvers. Pour moi, le premier port de construction de Sapine. Les Sapines étant ces, ou de Rambert, du nom du village, étant ces bateaux qui transportaient la houille à partir du XVIIe siècle jusqu'à Roanne. Comme plus loin dans les gorges de la Loire, la navigation était difficile à cause du saut du Perron, de Pinet, du château de la Roche. Ces bateaux étaient d'une taille relativement petite et étaient ensuite accouplés à Roanne, où de 3 chargements faisaient 2 bateaux. Il faut savoir qu'une partie non négligeable des chargements n'arrivait pas à bon port, c'est le cas de le dire. Une plaisanterie court à un moment qu'il y a autant de charbon au fond dans les gorges de la Loire que d'eau.
Oui, ça capotait.
Voilà. Donc cette peine de la Loire, et à ma grande surprise, j'ai pu constater que si on avait une crue centennale, comme il y en aura d'autres, comme il en reviendra, comme il en a toujours eu, beaucoup de maisons, même de bâtiments publics, de bâtiments agricoles nouveaux, d'artisans, seraient sous l'eau.
Seraient sous l'eau encore aujourd'hui.
Ah oui, C'est un petit peu... Alors malgré, on a maintenant un bon système d'alerte, Vigicru, qui avertit les populations à l'avance, mais je trouve qu'on a été bien inconsidérés de construire dans des zones si proches de l'eau. La plaine, une autre vie, donc l'écopôle du forêt, remarquable outil pédagogique pour présenter la Loire et son environnement. Les autres gorges de la Loire qui sont noyées sous le barrage de Villeray. Ce barrage de Villeray, il faut le rappeler, il fait un petit peu d'électricité, mais il sert avant tout à réguler le cours de la Loire au moment de l'étiage, quand il n'a plus assez d'eau pour refroidir la centrale nucléaire. À sa création, on nous avait parlé de tourisme. Je vous invite à aller à partir du mois de mai, surtout cette année, mai-juin, sur le plan d'eau de Villeray, pour voir si vous pouvez vous y baigner.
Ah oui, il y avait des problèmes d'algues.
D'eutrophisation, on connaissait avant de démarrer les constructions du barrage.
Et le long de la Loire, il y a une certaine faune. On fait aussi des rencontres, on voit sauter des poissons par exemple.
La faune, mais déjà il y a les poissons qu'on voit.
On voit des poissons
un petit peu, oui, on les voit sauter, des brochets, des... En amont, je ne savais pas si c'était des truites ou des brèmes, mais on voyait des poissons sauter aussi. Des oiseaux surtout. J'ai été surpris, quasiment sur chaque message enregistré, j'ai un fond d'oiseau. Ça m'a frappé, alors que je n'y prêtais pas assez attention quand je marchais. Les oiseaux, des chevreuils. J'ai vu beaucoup, beaucoup de traces de chevreuils. J'ai vu des chevreuils aussi, 5 ou 6, dont un qui était prisonnier suite à la montée de la Loire. Un mort dans le canal aussi, malheureusement. Et puis, des cygnes, des canards, suivant les endroits, bien sûr. Il y a trop de courants, mais des sternes, des goélands, des mouettes, voilà. Des cigognes, bien sûr. Et des hérons, là où la Loire était un petit peu basse. En hautes eaux, mais basse dans les prés, voilà.
Donc, alors, on arrive à Rouen.
À Rouen. On est à Rouen.
Les particularités ici.
Alors, Rouen, premier port fluvial. Je l'ai dit tout à l'heure sur la Loire. C'est en effet de là que partait sur la Loire, tout ce qui venait de la Méditerranée. Et c'est de là qu'ont été établies aussi les coches d'eau sous Louis XIV, qui organisait un petit peu le transport des personnes sur la Loire.
Alors, les coches d'eau.
Les coches d'eau. Alors, c'était un bateau à fond plat, puisque tous les bateaux de la Loire, quasiment tous les bateaux de la Loire sont à fond plat, avec une cabane. Donc ces bateaux étaient à une cabane et suivant la prestation, on dormait ou dans les cabanes ou à côté. Et ces bateaux faisaient des haltes, descendaient jusqu'à Nantes et faisaient des haltes tout au long du parcours.
On peut en voir des bateaux dans des musées le long de la Loire ?
On peut en voir dans des musées et surtout on en voit sur la Loire qui navigue. Des noms qui me viennent à l'idée comme ça, la Belle Caunoise. À Cône-sur-Loire, bien sûr, la Nivernaise, le Pascal Carole, tous des bateaux qui ont été remis en vie depuis une vingtaine d'années, parce que les habitants, les riverains, se retournent à nouveau vers leur fleuve. À Rouen, par exemple, on connaît le port de Rouen, c'est-à-dire le port du canal, mais la Loire...
Beaucoup moins.
Beaucoup moins. Il n'y a plus de joutes, ou quasiment plus à ma connaissance. De l'aviron un petit peu. C'est la seule activité qu'on a sur la Loire.
Alors, c'est dû à quoi, selon vous, cet éloignement d'un fleuve qui est pourtant en ville ?
Alors, c'est dû, comme bien souvent, malheureusement, à des problèmes économiques. Cette Loire, qui était avant le trait d'union du pays, qui permettait à la fois la circulation des marchandises, et des gens et des idées, il ne faut pas l'oublier, a dû faire face d'abord à la concurrence du canal, puisque la Loire n'ayant plus assez d'eau l'été ou trop d'eau l'hiver, la navigation ne pouvait se faire qu'un jour sur deux quasiment. Donc la construction des canaux latéral à la Loire, et en dernier le nôtre de Rouen à Digoin, a permis de régulariser un peu cette navigation, ce qui fait qu'on a commencé à se détourner de la Loire. Le chemin de fer a supplanté le transport par canal très rapidement, une trentaine d'années après la fin de la construction de notre canal à nous, puis les voies routières. Petit à petit, donc, le seul intérêt de la Loire, c'était la découverte de la nature, puisqu'on n'avait plus rien qui nous obligeait à la côtoyer.
Alors, pour se réapproprier le fleuve, il faut donner l'envie aux gens de faire comme vous, hein, aller marcher au bord de la Loire.
Et par exemple, sur la région rouennaise, chaque printemps, au mois de juin, est organisée une semaine de randonnée, itinérance douce en bord de Loire, une espèce de randonnée à la carte, qui suit la Loire ou le canal entre l'Observatoire d'Iguin jusqu'à l'Écopôle du Forêt, tantôt sur un versant, tantôt de l'autre, tantôt la montée, tantôt la descente. Et cette expérience voudrait arriver à construire un projet autour de la Loire, un projet porteur, un projet qui a un thème, en développant autour et des activités, des animations, des hébergements, un sentier peut-être au plus près de la Loire. Parce qu'on se rend compte, quand on marche un petit peu comme moi, tout au long de la Loire en particulier, qu'on est vraiment, notre petite région est vraiment en retard sur ce plan-là. On a beaucoup à faire, on a un déficit d'image.
Au point de vue touristique, vous
touristique,
voulez dire.
Touristique. Si bien que, en marchant souvent, les gens me demandaient, vous êtes d'où? Je suis de la Loire. Ah, la Haute-Loire? Non, la Loire. C'est quand même remarquable que ce soit notre département qui porte le nom du fleuve et que personne ne sache où il est. Mmh. Alors, il faut reconnaître cependant que des efforts sont faits. Au mois d'octobre, récemment, a été inauguré un bout de chemin entre Pouilly-sous-Charlieu et le pont d'Aiguille, en bord de Loire, qui n'existait pas avant. La voie verte, dont on entend parler depuis plusieurs années, semblerait avancer un petit peu.
Oui, elle va se faire, oui.
Voilà, effectivement, la Loire mérite bien ça, je pense. Alors, à partir de Rouen, quasiment jusqu'à Nevers, on entre dans le Charolais, dans le Brionnais d'abord, bien sûr, mais le Charolais, le Nivernais, qui sont toutes des terres d'élevage de bovins. Et tous les chemins qui sont au bord de la Loire mènent à des prés d'embouche, sans cul-de-sac. Donc, on ne peut plus suivre la Loire. Et c'est impossible. J'ai passé des heures à essayer de trouver des itinéraires, à part par petite portion, mais c'est impossible. Donc, pour ma part, je me suis contenté, entre guillemets, de suivre le canal, qui est, j'allais dire, le bras, qui est son jumeau d'une certaine façon. Si bien qu'à des moments, j'étais vraiment entre la Loire et le canal, puisque ils se touchent presque, une digue les sépare. Donc, le milieu de vie est le même. Les gens, entre les deux, dépendent évidemment de la Loire, des terrains situés au bord de la Loire, et de ceux de l'autre côté du canal. Ce que je disais pour la Loire, il y a quelques minutes, à propos de l'abandon que je ressens du fleuve, se passe aussi pour le canal. J'ai eu le plaisir de naviguer sur le Danton, la péniche qui était amarrée dans le port. Les gens applaudissaient à notre passage, tellement ils étaient heureux de voir une vraie péniche, 40 mètres de long quand même, naviguer à nouveau sur la Loire, en lieu et place des bateaux de plaisanciers qu'ils ont l'habitude de voir.
On n'en voit plus beaucoup alors des péniches ?
Non, qui naviguent, non. Alors, à quai, oui, on en voit beaucoup, mais qui naviguent très peu. C'est un petit peu dommage pour la navigation de plaisance, parce que le chenal au fond du canal, le fond du canal n'est pas plat du tout, hein, c'est un U, voilà, une gouttière. Et les gros bateaux nettoient, en remuant la vase, nettoient le fond du chenal en poussant la vase sur les côtés, ce qui facilite la navigation.
Ah oui, donc il en faudrait plus.
Alors. Il en faudrait plus.
C'était Gaby Roche qui a accompli l'exploit d'arpenter les rives de la Loire à pied de sa source jusqu'à l'embouchure. Nous le retrouverons pour la suite de son périple dans la rencontre de la semaine sur RVR. En attendant, vous pouvez lire son récit agrémenté des photos qu'il a prises, courant de Loire, disponible en librairie.